Bienvenue sur Flux Audio, votre podcast dédié à l'art contemporain.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michael Danse. Michael Danse, bonsoir.
Bonsoir à tous et toutes.
C'est vrai qu'on est, il y a du monde dans le studio de fortune qu'on s'est octroyé. Michael, vous êtes un artiste bien connu du monde de l'art. Vous êtes donc dessinateur, photographe, installateur, sculpteur et vidéaste, on peut le dire. Comment est-ce que vous pourriez vous définir en quelques mots ?
J'essaie d'utiliser les matériaux adéquats par rapport aux propos, simplement. Donc il y a d'abord une question. Et pour poser cette question, il y a des façons qui sont plus appropriées, simplement. Parfois le dessin, parfois la vidéo et parfois la performance.
Vous êtes un artiste, comme Jacques Charlier a pu le dire, ou Selçuk Mutlu a pu le dire, qui choisit son support en fonction de ses moyens, parfois de ses désirs.
Oui, et puis il y a aussi un rapport à la production. Ça dépend. Pour répondre à une invitation d'exposition, s'il y a une production, certaines choses sont envisageables, alors qu'elles ne le sont peut-être pas dans le quotidien. Et donc, pour quand même bosser dans le quotidien et continuer mon activité, oui, il y a le dessin ou la photographie. Dès que je veux aborder des grosses sculptures ou des installations, là, il y a une nécessité financière. Et il faut que j'aie des supports pour réaliser les pièces.
Votre pratique quotidienne, parce que vous travaillez tous les jours, je le sais, vous êtes un charbonneur, comme on dit, hein, quelqu'un qui travaille de manière tout à fait régulière, vous ne vous arrêtez jamais. C'est donc la photographie et le dessin. Plus le dessin, j'imagine, que la photo pour des questions logistiques ou non.
Non, c'est partagé. J'essaie quand même de faire de la photo deux fois par semaine. Et puis le dessin, le reste du temps, oui.
Revenons au début de votre envie de faire de l'art. Comment c'est venu chez vous? Comment le désir est né?
C'est marrant. Ça n'a jamais été une question, en fait. Depuis l'école maternelle, je pense que je voulais être artiste. Puis j'ai eu la chance d'aller très tôt à l'Académie de Verviers, vers 5 ans. Je pense que j'étais un peu en avance. Et je l'ai quitté à 25 ans, je pense. Et puis, entre-temps, j'ai été à Saint-Luc. Et puis après ça, j'ai fait la REICS. Et ça n'a jamais été une question chez moi. Il y avait énormément de livres d'art et ma mère s'y intéressait pas mal. Et donc, j'étais très tôt plongé dans l'art moderne. Peut-être pas l'art contemporain, etc., mais en tout cas l'art moderne.
C'était quoi les figures qui vous impressionnaient à l'époque?
Tout le monde m'impressionnait. Et particulièrement Graham Sutherland, que j'aimais particulièrement. Ouais. Fatalement, Picasso, Miro, tous les classiques. Hein.
Et quand vous arrivez donc aux études, vous êtes resté donc aux Beaux-Arts, hein, c'est ça? Vous avez eu un parcours artistique qui est, je dirais, quasi complet. Vous touchiez à tout ou vous aviez une spécialité déjà à l'époque?
Le dessin, c'est facile parce qu'il suffit d'avoir un crayon. Il ne faut même pas un morceau de papier, on peut dessiner sur un mur. C'est très accessible. Un appareil photo, j'en ai eu un très tôt dans les mains. Mes parents m'en ont offert, je devais avoir moins de 10 ans. Et donc, j'ai commencé à faire beaucoup de photos aussi très jeune. Et puis, le reste, c'est venu après. Surtout après avoir fréquenté les cours de sculpture de Patrick Günz, qui m'y a initié, et à l'art contemporain aussi. À Saint-Luc, j'avais pas spécialement été initié à l'art contemporain et grâce à lui, j'ai découvert un autre monde. Hein.
Ouais. Vous faites vraiment le schisme entre le dessin, je dirais le plaisir immédiat du dessin, et l'art contemporain, on va dire à caractère conceptuel, où l'idée, où le concept prend corps en plus, et la multiplication des supports aussi.
Oui, mais quelque part, ça se mêle. Parfois, les choses naissent d'un désir, d'une pensée, d'un accident. Parfois, je dessine aussi sans idée, sans... Je pars à l'aventure et puis des choses en résultent. Ouais, il n'y a pas vraiment une manière de faire particulière.
Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle ici.
Non.
Vous êtes assez libre, on va dire, à
oui,
ce niveau-là.
Et puis je pense que, justement, le plaisir, c'est aussi de se laisser aller quelquefois... À dessiner, puis à regarder ce qu'on a fait, et puis alors, à ce moment-là, de réfléchir. Il y a quand même, de toute façon, toujours un moment de réflexion,
ouais.
un minimum, mais, euh, Mais parfois, la réflexion naît de ce qu'on fait. Et puis, en général, je pense que même quand on fait une sculpture plus conceptuelle, il y a quand même des essais, et des maquettes. On passe par la modélisation, maintenant par la 3D. Mais il faut quand même pouvoir se représenter un peu ce qu'on va essayer de montrer. Ouais.
Quand vous êtes sorti des études, vous avez été immédiatement dans une galerie. Comment est-ce que ça s'est passé? Vous avez dû chercher, vous avez dû envoyer des dossiers, vous faire un réseau. Comment c'est arrivé?
Ce qui est drôle, c'est que quand je faisais mes études, je vendais déjà beaucoup. Pas spécialement en galerie, mais les gens me contactaient, me sollicitaient. Et puis, on a eu la chance, avec Pierre Gérard et Benoît Platéus, de participer à un concours. 51 Liège-Chalembert, je ne sais plus exactement le nom du... Et ça se passait à la Beauverie. Et puis de là, on a été emmenés dans plusieurs lieux. On a fait plusieurs expos, dont une expo à Venise avec Lino Poligato, qui était vraiment une super expo. On a même eu CNN qui est venu filmer l'exposition. Enfin, on a eu du succès.
Vous exposiez quoi à l'époque, là-bas?
Pour l'expo avec Lino, j'avais montré une chaussure qui était motorisée. Un des lacets était comme une pale d'hélicoptère et ça tournait au-dessus de la chaussure avec le talon qui frappait le sol comme des claquettes.
Ah, une espèce d'œuvre cinétique et, ouais, et musicale, quoi, mécanique.
Ouais, c'est ça.
Et à cette époque-ci, c'est quoi? On est dans les fin des années 90, c'est ça? 98, quelque chose
ouais,
comme
c'est ça? Ouais. Ouais.
Voilà, vous avez une espèce de déflagration dès le départ, c'est-à-dire qu'on se rend compte que voilà, c'est intéressant ce que vous proposez. En tout cas, vous entrez bien dans le milieu de l'art contemporain et ce que vous proposez intéresse.
Et puis on a eu la chance avec Pierre et Benoît d'être les Wallons, montrés en Flandre, à Gand, etc. Donc oui, on a profité de ça pour avoir un petit peu de visibilité. Et après, alors, les galeries ont commencé à s'intéresser à nous.
Une galerie parisienne, notamment.
Oui, une galerie parisienne et puis aussi une galerie belge. Oui, j'étais jeune, mais c'était une autre époque. Quand les galeristes s'intéressaient à nous et s'ils voulaient travailler avec nous, la chose qu'ils faisaient en premier, c'était d'acheter des pièces.
C'est ça, ouais.
Maintenant, ça ne se fait plus du tout. Et puis, il y avait vraiment aussi une espèce de lien qui se créait. C'était pas pour faire des petits coups. C'était pour... on envisageait quand même le travail dans la longueur.
Il y avait un suivi qui était...
Oui, il s'impliquait vraiment. Oui. J'ai l'impression que maintenant, parfois, s'il n'y a pas un résultat pécunier rapide, on se débarrasse vite de certains artistes.
Ouais. Vous sentez donc que l'époque a changé à ce niveau-là, le marché de l'art a changé, on a eu la discussion la fois dernière, les collectionneurs aussi, hein, n'est-ce pas,
ouais,
ont changé.
C'est tout ça, ouais.
La plupart ont disparu,
ou
ont complètement changé leur fusil d'épaule, les nouveaux. Comment est-ce que vous voyez, on va faire une petite parenthèse, comment est-ce que vous voyez ce marché de l'art, ce milieu de l'art, mais au niveau financier aujourd'hui?
Je crois que c'est différent quand on habite une province comme à Liège. Les gens essayent quand même d'avoir une pièce de Xavier Marie, une pièce de Fred Platéus, une de moi, dans leur collection. Donc, il y a quand même l'effet artiste provincial qui fonctionne. Et puis alors, si on a de la chance, on a aussi une visibilité au-delà. Mais... Alors que quand on est comme une amie Nina Bovasso à New York, il y a tellement d'artistes à New York que même si les gens veulent collectionner les artistes du cru... Il y en a trop,
ouais.
Mais c'est impossible. Ici, on est un peu nombreux, donc on se retrouve vite dans beaucoup de collections.
Donc, il y a quand même une espèce de renouvellement, malgré tout, mais pas suffisamment pour que ce soit pérenne, c'est ça aussi.
Je ne sais pas si c'est pas suffisant, mais en tout cas, il y a beaucoup moins de personnes éduquées à l'art.
Ouais.
Et puis peut-être aussi que les ventes publiques qui ont d'abord introduit toutes sortes d'œuvres très différentes pour essayer de créer un nouveau public. Et puis maintenant, qui partent aussi sur des prix très bas pour les mises à prix, enchères, font que tout est un peu tremblant, un peu fragile comme ça.
Mais bon, vous avez toujours fonctionné, mais c'est mon avis, hein, sur quelque chose de très exigeant en termes esthétiques et en termes intentionnels, et avec une certaine forme d'accessibilité. Parlons un peu de vos hauts faits. When the Weather Cloud Over, votre livre de photos de fleurs.
Oui.
Enfin, je l'ai énormément feuilleté, j'adore ce livre. C'est un livre qui, comme ça, de but en blanc, est magnifique, paraît absolument... accessible à tous, même, je sais pas, pour une vieille dame qui aime beaucoup l'art floral, etc. Et derrière, je le sais, on en a déjà discuté, il y a une intention assez forte et il y a une exigence esthétique assez haute. Est-ce que vous pourriez un peu nous en parler ?
Ouais, encore, là, enfin, ce que je pense en réponse à ce que vous dites, c'est que la photo n'a quand même pas une grande place dans le cœur des collectionneurs en général. Ça reste quand même un peu...
C'est un problème, ça, du coup.
Bah, c'est étonnant, en tout cas. Oui, les gens sont quand même toujours fans de peinture à l'huile sur toile.
Ouais, ouais, c'est vrai.
En premier.
Comment vous expliquez ça ? C'est quoi ? C'est la facilité de... Enfin, l'idée que tout le monde peut faire le cliché ?
Je pense
potentiellement.
Je pense que ce qui est quand même toujours fort inscrit dans les cerveaux, c'est le travail, la notion de travail. Et on quantifie parfois le travail en regardant l'œuvre. On ne pense pas nécessairement au temps et aux années qui ont été nécessaires pour pouvoir élaborer ce travail, mais plutôt au temps qu'on passe sur l'établi ou enfin sur la table à dessiner. Et oui, donc peut-être qu'une peinture à l'huile ou un dessin au crayon semble nécessiter plus de travail qu'une photographie, alors que ce n'est pas vrai.
Et quel est le travail en amont, justement, sur ces fleurs, sur ces photographies de fleurs qui sont sublimes, qui envoient...
Merci.
C'est vrai, et qui envoient vraiment quelque chose d'autre que simplement des fleurs photographiées dans différentes, avec différentes lumières, avec un étalonnage différent. Qu'est-ce que vous avez injecté en amont pour que, justement, les photos soient aussi superbes ?
En tout cas, ce qui est agréable dans le processus, c'est de déjà aller dans tous les magasins et les marchés pour trouver des tissus un peu particuliers. Et puis, chez les fleuristes, essayer de trouver des fleurs un petit peu différentes et réfléchir aux couleurs dans un premier temps, réfléchir aux matières.
La mise en scène.
Trouver des vases, oui. Parce que la lumière est plus ou moins toujours la même, et le cadrage aussi, une table, un fond, un vase, des fleurs. Et puis alors, chaque fois, j'essaye de faire un lien, soit avec l'histoire de l'art, soit avec la publicité, soit avec une lecture ou un film. Mais parfois, le tissu peut amener mon imaginaire à repenser à un film de Lynch,
ouais.
Et me dire, tiens, je vais travailler dans cet esprit-là, grâce au tissu que j'ai trouvé sur un marché, par exemple.
Ouais.
Ou la fleur peut aussi amener le... Et puis parfois, c'est simplement moi qui me dis, bon, je vais essayer de faire une photo typée à fond années 50, donc il faut vraiment que je trouve un tissu et un vase qui correspondent.
Oui. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a quelque chose qui travaille derrière ces fleurs. Et on sent qu'il y a soit une idée, soit une intention qui va au-delà de simplement photographier de la meilleure façon possible des fleurs. Il y a aussi cette idée cette thématique récurrente chez vous de l'entrave, de la manipulation extérieure et de subir quelque chose. Ces fleurs, elles sont, comme vous l'avez dit, coupées, mises en scène. En fait, vous les contrôlez complètement. Et c'est aussi une de vos grandes thématiques qui transparaît un peu partout.
Et puis les fleurs, quand je travaille sur les fleurs, il y a plusieurs vases avec des fleurs qui pourrissent ou... Enfin, lentement, mais... Donc, il y a un travail aussi sur la longueur avec chaque prise de vue. Et parfois, ça peut m'amener à faire 400, 500, 1000 photos du même vase, parce qu'il y a tellement de possibilités avec l'éclairage et changer un peu les objets, changer un peu les tissus, laisser pourrir les fleurs. Oui, c'est un travail de longue haleine aussi sur chaque prise de vue.
Vous pensez que cette subtilité, cette finesse qui transparaît dans certaines de vos photos ou dans certains de vos travaux est en train de, voilà, de passer comme peut-être comme du brouillard aujourd'hui. Est-ce qu'on la décèle encore, cette finesse, vous pensez ?
Oui, je pense que les gens sont quand même très sensibles en général. Et c'est pas non plus un exercice intellectuel hyper complexe. Donc, il y a plusieurs lectures, c'est sûr, à plusieurs niveaux, mais en tout cas, le premier, c'est peut-être simplement de les toucher, parfois avec une couleur, un rapport à une couleur ou des rapports de couleurs. Et après, s'ils veulent aller plus loin, réfléchir, c'est toujours possible.
Cette thématique de l'entrave, cette thématique de, je dirais, parfois même aussi, de l'entrave exhibée, c'est une grande thématique dans vos dessins, avec la fragilité des nounours également, on va y venir, des ours en peluche, en tout cas qui sont mis dans des positions qui sont malmenées, on va dire, hein, pour ne pas entrer trop dans les détails. Mais également dans vos photos, vous avez l'ouvrage Dry Spell, qui est une espèce de... d'album complet de ce type de photographie. Pour entrer dans ce thème, je vais peut-être citer Thomas Gunzig, qui a écrit un texte sur votre travail qui est très intéressant. Il date de quand, ce texte ? D'ailleurs, il est sur le site de la Space. Vous ne vous en souvenez ?
Oui, je m'en souviens, mais je ne sais pas quand... Je ne saurais pas vous dire quand Thomas l'a écrit.
C'était en 2020, il me semble,
si je
ne me trompe pas. Alors, je le cite. « Entre la pornographie ludique, le fétichisme de sous-bois, la revue de sport moteur, le manuel d'architecture, le rapport de géomètre expert ou l'esthétique glacée de la petite annonce eBay, il parle de vos clichés, elle traduisait toute l'indicible merveille de la pulsion vitale au milieu d'une civilisation arrivant à son terme. » Quelque chose du sourire narquois du condamné à mort face au fusil du peloton d'exécution. C'est quand même très beau. Et alors, il avoue même, à un moment donné, qu'il avait essayé de copier un peu votre style. Il le dit à la fin. « Je m'étais misérablement planté en tentant de faire du Michael Danse. Je n'avais obtenu qu'une soupe blafarde et sans aucun intérêt. Et j'avais dû reconnaître cette chose terrible. Pour faire du Michael Danse, il faut être Michael Danse. » C'est très flatteur, quand même.
C'est flatteur, mais Thomas a fait énormément de photos. Et il a fait de super belles photos. Et je pense qu'il en a vendu aussi pas mal. Et donc,
Voilà, il a essayé de vous plagier. Il dit quelque chose. C'est très difficile de faire du Michael Danse.
Mais pour en revenir à Thomas, je pense que ce qui était particulier, selon lui, c'était de demander à des gens en rue de poser pour des photos et parfois de demander à des femmes de poser pour des photos comme celle-là avec du duct tape bondage, pour les immobiliser, tout ça, que les personnes acceptent.
Ouais. Il y avait des femmes et des hommes. Hein,
beaucoup d'hommes aussi les duct tape bondage. Mais ce qui l'étonnait, c'est que les gens qui n'étaient pas des professionnels que je rencontrais en rue acceptent de poser. Et ce qu'il avait envie aussi, c'était de voir si lui pouvait faire de même. Mais je pense que comme il est Thomas Gunzig, quand il a demandé, il a eu des milliers de réponses.
Ça lui a fait peur. Il a eu trop de oui.
Trop de oui pour lui.
Mais vous avez énormément de modèles différents. Enfin, vous avez eu énormément de modèles différents. C'est aussi simple que ça ? Aussi simple que Thomas le dit dans son texte ? Parce que vous lui répondez. Il suffit de demander, en fait.
Il suffit de demander, mais en même temps, je travaille toujours avec les mêmes personnes.
Ah oui, quand même.
Et oui, c'est une espèce de team. Et quand les gens acceptent de poser pour moi, ils reposent pour moi encore et encore. Et donc, finalement, c'est un peu comme une équipe. Ouais. C'est toujours les mêmes. Et quand on regarde, si on regarde toutes mes photos à plat, on verra une même personne dans 4-5 situations très différentes.
Ouais, c'est amusant aussi. Ouais. Donc, intentionnellement, je vais essayer d'y revenir. C'est quoi ? C'est donc la condition humaine. C'est ça que vous essayez, peut-être de manière grandiloquente, mais il y a un peu de ça hein, quand même.
Une grande partie du travail, c'est de reprendre des photos que je trouve sur Internet.
Ouais.
Donc, je regarde... Comme vous, comme tout le monde, énormément de choses sur Internet. Et puis parfois, il y a des photos comme ça, amateurs, super chelous, qui passent. Et alors, je m'y arrête, je m'intéresse, j'essaie de voir s'il y a de la lecture par rapport à ces thématiques. voir du fétichisme ou des choses comme ça. Donc, finalement, tout existe. Donc, si on se dit, il y a des types qui aiment bien manger de la braise et se la foutre dans l'œil, bim, on va en trouver 2000 qui sont dans des clubs et qui font ce truc-là, c'est super marrant. Et donc, je reprends ces photos, je les remets en scène et je les refotographie.
Ouais.
Ça part souvent de ce
principe. Donc, il y a un modèle préexistant que vous essayez de refaire avec les moyens du bord.
De remettre en scène, ouais. Surtout de prendre une image faite par des amateurs dans leur chambre à coucher et de prendre cette image et de l'amener dans le champ de l'art, mais en y apportant des modifications. Un peu comme, finalement, ça a toujours été fait en art, les photographes s'inspiraient de la peinture.
Bien sûr.
Ou les photographes s'inspiraient d'autres photos.
Je pense à Witkin, notamment, qui faisait aussi des mises en scène assez morbides, mais très baroques, hein, au final.
Mais il y a aussi beaucoup de peintres qui copient des peintres.
Ouais.
Enfin, voilà, c'est un exercice vraiment important à faire.
Ouais.
Et puis, ça permet de faire des références, d'être en filiation.
Oui, voilà. Ça, c'est très important. Vous faites ma transition. Vous êtes en filiation. C'est-à-dire que vous n'apparaissez pas de nulle part. Vous vous revendiquez d'une lignée d'artistes que vous avez nommés. Alors, Jacques Charlier, Johan Meul, qu'on a réussi à inviter grâce à vous. Hein, on vous remercie. Ils sont toujours présents. Il y en a d'autres, d'ailleurs, que ceux que j'ai cités.
À Liège, oui. Il y en a beaucoup. Mais même des artistes comme Marc Angeli ont eu de l'importance. Boulanger a eu de l'importance parce que c'est des gens qui pouvaient parfois, avec une réflexion, nous ouvrir des champs de l'art hyper vastes. Jacques Lizaine a été
Jacques
très
Lizaine,
important.
Évidemment. Ouais. Évidemment
ouais. Et puis toutes les rencontres sont importantes. Et c'est ce que j'aime bien aussi, c'est même rencontrer des très jeunes artistes, ça a beaucoup d'intérêt. Parce que ça me permet aussi de me tenir au courant de leurs questionnements et des images qui les intéressent et des formes qui les intéressent. Donc,
Vous avez été curateur aussi. Hein.
Ah oui, j'aime bien. Oui.
C'était quand, en 2024, il me semble.
Ah, je l'ai fait, j'ai organisé quand même pas mal d'expos.
Mais dernièrement, chez Flux en tout cas, ça c'est
certain.
Ah oui,
certain, chez Flux, oui. Chez
deux artistes slovènes.
Oui, c'est ça.
Des filles.
Il y en a une qui faisait de la céramique.
Oui, c'est ça, il y avait de la céramique.
Et une peintre.
Absolument, oui. Ah, oui. Une peintre, absolument, ouais, tout
ça.
À fait.
Ouais. Et Anna Maria Benova, la peintre, on s'est rencontrés aussi via Instagram, via nos comptes Instagram. Parce qu'on avait quand même pas mal d'images en commun, enfin de références en commun, alors qu'elle a 30 ans de moins que moi.
Ouais,
peut-être des sortes d'intérêts communs et une forme d'humour aussi.
Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que c'est très drôle chez ce que vous faites la plupart du temps. En tout cas, il y a de la dérision. Mais alors, il y a aussi, je trouve, cette idée d'aller à l'encontre des codes de la bien-pensance, de la bien-séance, mais en toute tranquillité. Là, je me souviens, alors c'était vous qui curatez, mais c'était pas vous l'artiste. Et les photos, c'était donc deux femmes des pays de l'Est, deux jeunes femmes qui faisaient un art extrêmement, je dirais, misogyne, si on le prend en premier degré. Alors, il y avait une dénonciation. Si on n'avait pas les infos, si on ne savait pas très bien qui faisait quoi, on aurait pu se croire vraiment dans quelque chose qui était hors des canons moraux de l'époque. Est-ce que vous aimez ça aussi, jouer avec ces types de considérations?
Oui, pour moi, c'est super important. J'aime que ça dérange. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est qu'à force de regarder cette forme d'art et de la pratiquer, je me rends plus compte que ça dérange. Donc je dois quand même un petit peu chaque fois repousser un peu le curseur.
Oui.
Mais il faut que je fasse attention parce que les gens n'ont pas poussé le curseur en même temps que moi.
Oui, c'est un numéro d'équilibriste. Vous le tenez bien jusqu'à présent. Vous n'avez jamais eu de problème à ce niveau-là.
Non, je n'ai jamais eu de problème. Et j'espère que je n'en aurai jamais. Mais c'est vrai que peut-être que la société se puritanise un petit peu et que le regard des gens se lasse aussi de certaines images. La nudité, par exemple.
Oui.
Les gens se lassent de la nudité. Et moi, je ne m'en lasse pas. J'aime bien toujours choquer. Et je trouve que rien que de se mettre... aller à un concert et puis qu'il y a un type qui monte sur la scène et qui se fout à poil, ça me fait toujours rire.
Ça marche à chaque fois.
Ça marche toujours.
Pour vous. Ouais, super. Michael Danse, parlons maintenant du dessin. Alors, on a essayé un peu de brasser les photos. On a essayé de le faire, en tout cas, les dessins. Votre pratique du dessin, c'est une pratique figurative. Vous dessinez tous les jours, hein, c'est ce que vous me disiez. Et c'est quoi, multitechnique? Il y a beaucoup de mines graphite, mais pastel gras aussi, hein, il me semble.
Bah, c'est des périodes, il faut que... Quand je dessine avec les crayons graphite, il faut... Ça fait beaucoup de poussière noire.
Ouais.
Il y en a partout. Donc j'en ai partout sur mes vêtements, mes doigts, dans le visage, dans la bouche, dans le nez. Donc il faut aussi que le périmètre soit un peu sécurisé pour ne pas que je défonce tout ce qu'il y a autour de moi. Et puis après, je passe parfois aussi au stick à l'huile, au pastel gras, etc.
Les bâtons d'huile, voilà.
Oui, voilà, bâtons d'huile. Et là, pareil, ça se répand facilement.
Ouais.
Et donc, il faut aussi... Mais je ne peux pas mélanger, parce que si je travaille les dessins au crayon et en parallèle le stick à l'huile, c'est sûr que ça va se retrouver dans les deux et ce n'est pas mon propos.
Vous devez séparer...
Oui, je dois vraiment séparer un côté un peu chirurgical. Les techniques.
Et alors, dans les thématiques des dessins, il y a beaucoup de thématiques animalières, si je ne me trompe pas. Des chauves-souris. J'ai vu passer des chauves-souris, justement, au stick à l'huile, assez grotesques, très bien représentées, mais justement avec une espèce de bonhomie un peu bizarre. Il y a un côté enfantin, mais maîtrisé, qui est très, très intéressant. Vos nounours, hein, les ours en peluche, qui aussi sont détournés, sont mis dans des situations un peu incongrues ou sont sexualisés avec des chaînes, du cuir. Bon, ça, on l'a vu à l'espace 251 Nord. Et alors, vos vautours, on en a déjà parlé, mais j'aimerais bien qu'on y revienne, car ici, c'est un dessin qui est très différent de ce que vous avez pu proposer. C'est un dessin plus minutieux et chirurgical qui est contextualisé. C'était après les inondations, hein, c'est ça.
Et le rapport au recyclage. Les
vautours, tout à fait.
Qui recyclent tout. Enfin, qui recycle les morts, mais les cadavres. Mais ce qui est particulier dans ce que vous dites et qui est un peu, sans que je ne le fasse spécialement exprès, sans que je ne le veuille, mais qui est un peu présent, c'est que toutes mes pièces ressemblent un peu à des jouets, quelque part. J'ai fait un nichoir géant qui ressemble un peu à un jouet et une grande poupée. Et mes dessins ressemblent aussi à des dessins d'enfants, parfois, comme vous le dites. Donc, il y a aussi... au-delà de moi, mais une espèce de volonté d'accessibilité de la proposition par ce biais de quelque chose d'un peu presque enfantin de prime abord. Alors qu'il y a vraiment une rupture avec les vautours, il n'y a rien d'enfantin là-dedans. Mais Walter Sonnen m'a dit une fois, je l'avais peut-être déjà dit, que parfois il faut montrer qu'on est capable de dessiner aussi.
Ah non, ouais. Je
alors
pas...
Walter qui faisait beaucoup de dessins,
c'est vrai,
un petit peu abstrait avec des, avec ses bics, parfois avait dessiné, par exemple une boîte d'allumettes hyper réaliste.
Pour montrer, alors... je sais le faire. Là, clairement, oui, vous l'avez montré. C'est suite donc à l'inondation de votre maison à Angleur, c'est ça. Donc c'est thématique du recyclage, des charognards qui, en même temps, font une espèce de recyclage biologique.
Oui.
Et aussi, c'est le fait que vous ne pouvez plus travailler dans votre atelier. Il a fallu que vous alliez chez votre mère, il me semble.
Oui, c'est ça.
Et que
vous travailliez
à plat, sur la table de la cuisine.
Oui.
Et alors, moi, j'ai été assez fasciné par cette technique. C'est-à-dire que vous avez d'abord, avec une pointe sèche, fait les grandes lignes du dessin. Tout le dessin à l'aveugle,
Et
vous avez repassé après.
Pas à l'aveugle, j'utilise mon téléphone, avec la lampe du téléphone, je peux voir les ombres des lignes que je trace à la pointe sèche sur le papier blanc. Ouais. Et donc, ça fait des petites ombres et ça me permet de voir où je suis. Mais alors, oui, je recouvre tout le dessin. J'ai fait des dessins chez Laurent, il y avait quand même, chez Laurent Jacob, il y avait quand même des dessins d'1,50 m sur 1 m.
C'est immense.
Et qui étaient complètement gravés. Et là, j'avais fait appel à Sarah Munitilo.
Oui, absolument.
Qui était venue travailler avec moi pour ces grandes surfaces.
Ah quoi, elle a travaillé avec vous, donc elle a...
C'est ça.
Extraordinaire, ça. Vous avez travaillé à quatre mains, quoi.
Oui, c'est ça. Elle travaillait... on n'était pas nécessairement en même temps sur la feuille, mais elle a passé beaucoup d'heures à tracer les lignes... pour avancer dans les dessins, oui.
C'est un peu comme un mangaka, en fait, qui demande à un de ses assistants de faire les décors, de faire les trames, etc.
Oui, et puis surtout, c'est étonnant, mais ça fait très mal au poignet.
Ah bah oui.
Et donc on se relayait. Et bon, ça, la pauvre Sarah, j'espère qu'elle ne s'est pas trop abîmée le poignet, mais elle portait même une attelle.
Ah oui,
c'est un peu conseillé même de porter une attelle tellement c'est pénible.
Ouais, et tellement c'est minutieux et tellement c'est voilà, c'est comme un moine copiste, hein, c'est ce qu'on disait. Hein. Michael, quels sont vos projets futurs? Est-ce que vous en avez? Je le sais que vous avez une exposition collective qui se prépare à la New Space. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler?
Oui, on a une exposition collective pour juin jusqu'à septembre.
J'ai les dates précises.
Ah oui, et dans cette expo, je suis invité avec François Curlet, et qui est un artiste français, mais qui a une longue vie belge. Et puis, il y a Michaela Sanson-Brown et Antonio Ortega aussi.
Absolument.
Qui sont invités.
Ouais, ouais, ouais. C'est du 3 juillet au 2 août, et il y a une interruption du 3 septembre au 19 septembre 2026.
Ah oui, c'est ça. Il y aura donc le micro-festival qui sera en même temps, et les gens pourront accéder à l'exposition à ce moment-là.
Voilà, cette exposition se nomme Groenland. C'est une idée de François Curlet, hein, ça que vous me disiez. Et alors, elle va tourner autour de quoi, cette exposition? Est-ce que vous pouvez un peu, sans révéler vraiment les tenants et aboutissants globaux, mais est-ce que vous pouvez un peu nous la teaser?
Pour le moment, on est vraiment au tout début, et donc il y a beaucoup d'échanges entre les quatre artistes. Et on montre un petit peu les pièces qu'on pourrait proposer, et on réfléchit tous ensemble à l'exposition, à la thématique générale, à ce qu'on veut aborder. Mais disons qu'il y a quand même une notion de territoire à travers Groenland.
Oui, c'est l'actualité autour du rachat du Groenland par Donald Trump n'est pas étrangère à ce titre, j'imagine.
Oui, exact. Et puis, les travaux sont très variés. Et donc, on en est vraiment aux prémices, à la réflexion.
Vous savez déjà ce que vous allez proposer?
Non. Et il faut aussi que tout le monde accepte les propositions de chacun.
Ouais.
Et puis que tout s'accorde. Enfin, c'est quand même un gros travail à quatre.
Et logistiquement, vous faites ça comment? Ça m'intéresse, vu que vous êtes à des endroits très distanciés, en fait.
WhatsApp, on a un compte commun et on s'écrit, on échange sur WhatsApp tous les quatre, en anglais et en français.
Et c'est curaté par...
Ce sera curaté par Alain de Clercq.
Ah, voilà, c'est Alain
ouais.
Qui est derrière le...
C'est Alain qui nous invite, oui.
Qu'on salue, d'ailleurs.
Ouais.
Michael Danse, merci beaucoup d'avoir été derrière
merci
le micro de Flux Audio.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.